Nous prenons la parole dans Romains 12. Romains 12. À partir du verset 17. Romains 12, 17. La Bible dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Sois vainqueur du mal par le bien. C'est ce que dit cette parole. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Vous savez, lorsqu'on veut améliorer la vitesse d'une voiture, on ne va pas se concentrer sur les ailes. Hein. La voiture n'a pas d'ailes. On va se concentrer sur les pneus, le moteur. Et si on veut améliorer la vitesse d'un avion, on va voir comment travailler les ailes. Lorsqu'on veut améliorer la vitesse d'un avion, on ne va pas toucher les pneus, les roues, parce que ce n'est pas les roues qui donnent vraiment la grande vitesse de croisière à l'avion. C'est les ailes, ce sont les moteurs, ce sont les réacteurs. Donc chaque être, chaque créature a ses organes de fonctionnement. Et lorsque un oiseau est rapide, on ne va pas trouver le secret dans ses pattes, on va trouver le secret dans ses ailes. Lorsqu'un animal terrestre est rapide, on va trouver le secret dans ses pattes, puisque chaque animal, chaque créature, chaque organisme a sa manière de fonctionner. Et les chrétiens aussi ont leur manière de fonctionner. Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai un problème avec l'agence qui me loue l'appartement. C'est que ça fait plusieurs mois, quelques mois, que le bip du parking ne fonctionne pas, et donc je suis obligé de garer dehors. Et à un moment, je me disais, mais est-ce que ce n'est pas être poltron que de laisser comme ça les choses? Bien sûr, je revendique. Je dis, mais il faut le bip. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas diminuer? Donc, leur écrire une lettre recommandant en disant que je paierai moins puisque je n'utilise pas mon parking. Et cette idée-là, ça traînait. Et quand je veux la faire, je me dis non, c'est pas bon. Je sens en moi que c'est pas bon. Mais il y a une voix qui te dit, mais oui, mais là, tu te laisses faire. Si tu te réveilles pas, ils feront rien du tout. Et si tu ne menaces pas, si tu ne fais pas quelque chose. Et puis, c'est là que, dernièrement, j'ai reçu cette prédication. J'ai reçu le cas de Jacob, qui a été escroqué par son beau-père. Il a travaillé pour lui 7 ans pour Rachel. Mais le jour du mariage, on lui donne Léa. Et on l'oblige à travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. Et ça a fait 14 ans. Non seulement ça, il ne faisait que... On l'a pris ces 14 ans. Et bien, à d'autres moments, il était obligé de travailler beaucoup pour son beau-père. Son beau-père l'a utilisé. Mais il a travaillé sans discuter. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jacob qui possédait la plus grande partie du troupeau. Cet exemple est venu dans mon cœur. J'ai compris qu'il fallait laisser faire. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, que Dieu s'occupe de cette affaire. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a parlé de tout ce que je veux dire en ce qui concerne la puissance des chrétiens, c'est d'être vainqueur du mal par le bien. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas revendiquer ses droits, mais est-ce que c'est Dieu qui le pousse à revendiquer ses droits? Est-ce que c'est Dieu sur qui il compte? Dieu peut nous pousser peut-être à revendiquer des droits juste pour établir la vérité, mais nous devons compter sur lui pour recevoir la réparation. Nous ne devons pas compter sur les autres. Peut-être qu'il veut nous utiliser pour établir la vérité dans certains procès ou autres, mais nous devons compter que sur lui, pour la réparation, pour recevoir ce que les autres nous ont pris. Nous pouvons compter que sur lui. Et nous lisons dans Genèse au chapitre 29. La Bible dit ceci, à partir du verset 15. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Nous allons au chapitre 30, au verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison ?» Laban dit, « Que te donnerai-je ? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les boucs, rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, et toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis, il le remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Voilà ce qui s'était passé. Et après, nous lisons au verset 4 du chapitre 31. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, « Les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levais les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob, je répondis, me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde. » Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que je t'ai fait, tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Alors, Jacob, après avoir travaillé longuement pour son beau-père, son beau-père continuait à l'escroquer en changeant le salaire. Tantôt, quand il s'était entendu que les brebis tachetées seraient à Jacob, comme elles étaient en petit nombre, le père a accepté. Mais Dieu a permis que maintenant, ce soit le bouc tacheté qui aille vers les brebis et ça produisait forcément des agneaux tachetés et le troupeau de Jacob grandissait. Et quand le père a vu ça, il a changé encore de système. Mais Dieu a encore permis que le troupeau de Jacob grandisse. Et à la fin, le troupeau de Jacob était plus grand que le troupeau de Laban. Donc c'est ce que Jacob dit. Il dit, « Votre père s'est joué de moi. Je le servais, il m'a escroqué à plusieurs reprises. » Mais Dieu n'a pas accepté les choses ainsi. Finalement, il a pris le troupeau de votre père, il me l'a donné. Parce que le troupeau de Jacob était devenu plus grand que le troupeau de Laban. C'est ça la réalité. C'est que c'est Dieu qui combat pour nous. Le chrétien n'a pas à rendre le mal par le mal. L'arme du chrétien, c'est l'amour. L'arme du chrétien, c'est la paix. Comme on a lu dans Romains 12, 18, « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. » Il y a des moments où on n'a peut-être pas la force de manifester l'amour, mais soyons silencieux. Soyons en paix. Quand on n'a pas la force de sourire, taisons-nous. Soyons des hommes et des femmes de paix, parce que c'est ainsi que nous attirons la puissance de Dieu. Dieu ne peut pas agir en dehors de ses règles. Souvenons-nous de l'apôtre Paul. Il a dit à Timothée, « Combat selon les règles. » Les règles du chrétien, c'est rendre le mal par le bien. C'est ça nos règles. Quel que soit le mal qu'on peut nous faire par les autres, Jésus-Christ lui-même nous a donné l'exemple à la croix. Il a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas dit, « Seigneur, venge-moi. » Il n'a pas dit qu'ils soient maudits. Non, il a dit, « Seigneur, ces gens-là ne savent pas qui ils ont affaire. S'ils savaient que vraiment je suis ton fils, ils n'oseraient pas faire ce qu'ils font. » Et tous les gens qui nous font du mal, on doit répéter la même chose. « Seigneur, pardonne-leur, parce que s'ils savaient vraiment connaissaient ma relation avec toi, s'ils savaient que je suis ton enfant, ils n'oseraient pas me toucher. C'est parce qu'ils sont ignorants, ils sont devenus aveugles, ils sont devenus fous, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Pardonne, parce que nous connaissons la puissance de notre Dieu. » À chaque fois que nous rendons le mal par le mal, nous sous-estimons Dieu. Et le Seigneur se met en dehors de nos affaires. Il dit, réglez-les par vous-même, parce que vous croyez en votre force, parce que vous croyez en votre colère. Et il y a un verset dans Jacques 1:20 qui dit, la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. La vengeance de l'homme ne poussera pas Dieu à agir, même si tu as raison. Lorsque tu prends la colère, tu mets sur ta raison. Pour revendiquer des choses, Dieu n'agira pas. Dieu agira lorsque tu pardonnes, lorsque tu rends le mal par le bien. Là, tu attires la puissance de Dieu pour agir en ta faveur. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de sa persécution. Et il m'a posé la question, mais Seigneur, pasteur, qu'est-ce que Dieu fait? Moi, j'ai dit, Dieu veut que les cartouches de tes ennemis s'épuisent. Laisse-les bosser. Laisse-les travailler. Il faut qu'on souffre pour que Dieu, quand il sanctionnera les méchants, il ait une preuve de dire, voilà, je vous ai laissé faire, souffrir mes enfants. Et je n'ai pas bronché, croyant que vous alliez vous repentir. Vous ne vous êtes pas repenti. Votre sanction est justifiée maintenant. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu seul sait comment se venger. L'homme n'est pas capable. L'homme fait toujours des excès ou il ne fait pas les choses comme il faut. Alors laissons à Dieu ce domaine. Nous restons dans le domaine de l'amour, de la paix. Dans le domaine de supporter tout. La Bible dit l'amour supporte tout. Lorsque quelqu'un est en train de nous faire du mal, laissons-le continuer, laissons-le faire. Dieu voit tout. Comme notre frère tout à l'heure nous a dit, il s'appelle l'Éternel, notre justice. Il sait ce qu'il va faire. Ne cherchons pas à faire comme les autres. Il y a des moments où nous allons sentir que nous sommes critiqués ou bien il y a des gens qui font des conciliabules contre toi. Mais ne fais pas pareil. Toi aussi, tu fais des conciliabules. Non, tu vas faire comme eux. Dieu ne veut pas cela. Nous ne sommes pas de la race des méchants. Nous sommes de la race des justes, de la race des gens qui aiment. Donc nous ne devons pas rendre le mal par le mal, mais rendre le mal par le bien. Je vais énumérer quelques raisons qui vont nous aider à marcher selon la nature que Dieu a voulu pour nous et qu'il veut pour nous, la nature de paix, d'amour, la nature d'agneau. La première raison, c'est celle que je viens de donner. Nous ne sommes pas de la race des méchants. Nous sommes de la race des justes. Nous ne sommes pas de la race des méchants. Bien-aimé, si tu donnes, tu lances une pierre à un aigle, l'aigle ne va pas prendre la pierre et te lancer. Si l'aigle veut te combattre, il viendra avec ses serres, ses griffes et son bec. Même si toi tu lui lances la pierre, lui ne peut pas prendre la pierre parce que ce n'est pas son arme. Il n'est pas habitué à une pierre. Lui, son arme, c'est le bec, c'est les griffes. Et donc, quand nous, on nous lance une pierre par des gens, notre âme, ce n'est pas la pierre. Nous sommes de la race des justes. Notre arme, c'est la prière, la bénédiction, c'est l'amour. Il faut s'habituer à ça, bien-aimé. Avec tout ce qu'on voit comme outil de répression, aujourd'hui, police, juges, tribunaux administratifs, petit à petit, on oublie que Dieu est juste et qu'il agit dans sa justice dans le monde entier. Et on commence à se battre par nos propres forces. Et on commence à faire comme les méchants. Nous allons lire un passage dans la Bible, dans le livre de Samuel au chapitre 24. Nous prenons l'exemple de celui dont Dieu dit, « Je me suis choisi un homme selon mon cœur. » Un Samuel au chapitre 24. La Bible dit ceci. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins. On vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers de boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Bien-aimé, quel acte ! Alors que Saül cherche à le tuer, il arrive quand même à se prosterner devant Saül. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur, parce qu'il dépasse beaucoup de chrétiens de loin, alors qu'il ne connaissait même pas Jésus. Donc quelqu'un qui veut te tuer, j'en connais beaucoup qui manifesteraient de l'impolitesse en ce moment-là. Mais là, il se prosterne. Il dit, mais qu'est-ce que tu me veux? La Bible dit, je continue. Ô roi, mon Seigneur, verset 9, Saül regarda derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici David cherche ton malheur. » Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté. » Ça, c'est une de mes phrases que j'aime le plus. « Des méchants vient la méchanceté. » David dit, « C'est les méchants qui font la méchanceté. Moi, je ne veux pas faire ça. »« Des méchants vient la méchanceté. » dit l'ancien proverbe. « Aussi, je ne porterai point la main sur toi. » Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ses paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi. » Car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de ta maison, de la maison de mon père. » David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. Bien-aimé, Saül lui-même, il est dépassé. Il dit, mais comment tu peux laisser ton ennemi, la personne qui voulait te tuer? Tu as maintenant l'occasion de l'achever. Tu dis, David dit, non, ça, ce n'est pas mon problème. C'est les méchants qui font la méchanceté. C'est les méchants qui tuent. C'est les méchants qui cassent, qui brisent. Moi, je ne suis pas méchant. Je suis de la race des bons. Donc, je ne vais pas faire comme eux. Il a laissé Saül vivre. Quel exemple pour nous. Voilà la première raison Pourquoi ne pas rendre le mal par le mal? Parce que nous ne sommes pas de la race des méchants. Nous sommes de la race des bons. Il faut qu'on vive en fonction, conformément à notre race. Il faut qu'on vive comme cela. Dans le psaume 73, il y a un serviteur de Dieu qui se plaint. Il dit, les méchants prospèrent. Nous, les justes, nous souffrons. Mais à un moment, il décide de faire comme les méchants. Et quand il veut essayer, il dit, ce n'est pas de ma race. Lisez le psaume 73, vous verrez. Il dit, quand je veux faire comme eux, je sens que ce n'est pas de ma race. Ce n'est pas à moi de faire comme eux. Même s'ils prospèrent, même s'ils semblent gagner, je ne peux quand même pas faire comme eux. C'est comme, je le dis depuis un moment, autrefois, j'ai choisi le Seigneur parce que je sais qu'il est tout puissant. Il est merveilleux, il est grand. Mais bien aimé, même si le Seigneur ne me donnait pas ce que j'attends, même si les forces des ténèbres sembleraient prendre le dessus, je m'accrocherai toujours au Seigneur. Pourquoi? Parce que sa race est la plus belle. C'est la race des gens qui aiment. C'est la race des gens qui pardonnent. C'est la race des gens qui sont bons. Même si les forces des ténèbres semblent prendre le dessus, on les laisse prendre le dessus. Même s'ils doivent nous marcher dessus, nous n'allons pas changer de race. Nous restons bons. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on ne change pas de race. David a dit, la méchanceté appartient aux méchants. Laissons les méchants faire des coups bas. Laissons les méchants frapper, escroquer, injurier. Laissons les méchants faire la magie. Mais nous, nous n'avons pas à maudire. Nous n'avons pas à rendre le mal par le mal. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent, les bénir. Voilà ce que l'héritage de notre race, prier et bénir ceux qui sont apparemment nos ennemis, ceux qui se sont dressés en ennemis contre nous, nous devons les bénir et prier pour eux. Voilà l'héritage de notre race. Ne sortons pas de cette race-là. C'est la plus belle race. La deuxième raison, c'est David qui le donne. Cette histoire nous donne la raison pour laquelle Dieu veut qu'on ne rende pas le mal par le mal. Parce que si nous rendons le mal par le mal, nous annulons la justice de Dieu. Nous devenons nous-mêmes juges. David dit à Saül, Dieu jugera entre toi et moi. Lorsque nous commençons à vouloir attaquer nos adversaires, lorsque nous voulons les attaquer personnellement, non pas parfois attaquer ce qu'ils disent, mais les attaquer individuellement, nous nous faisons juges. Et en nous faisant juge, on empêche à Dieu d'être juge. Et ce n'est pas notre justice à nous, notre colère à nous qui va changer les choses. Seul Dieu peut changer les choses parce qu'il est tout puissant. Et si nous voulons qu'il agisse dans sa toute puissance, nous devons pardonner à ceux qui nous font du mal. Et nous devons les bénir. C'est comme ça que nous laissons Dieu agir réellement et rétablir le droit tel qu'il doit être rétabli. David a dit, ce n'est pas moi qui vais faire ça. Je pouvais te tuer, mais ce n'est pas moi d'établir les choses, c'est à Dieu de le faire. Je te laisse poursuivre ton chemin. Je ne suis pas de la race des méchants. Saül lui-même reconnaît. Il dit, non, tu es juste, David. Tu es juste et Dieu te bénira. C'est toi qui seras roi à ma place. Lui-même, il prophétise. Bien-aimé, la troisième raison, c'est que lorsque nous pardonnons à ceux qui nous font du mal, lorsque nous les bénissons, nous prenons de l'ascendant sur eux. Nous devenons supérieurs. Nous montons au-dessus d'eux. C'est cela, bien-aimé. Souvent, ceux qui nous persécutent veulent prendre quelque chose chez nous, veulent rivaliser avec nous, veulent nous détruire. Mais lorsque nous pardonnons, lorsque nous les bénissons, eh bien, Dieu nous met au-dessus d'eux. Vous vous souvenez du psaume 23, hein? C'est toujours David qui en parle. Il dit, il ouindouille ma tête, il me dresse une table autour de mes ennemis. C'est-à-dire, tes ennemis vont voir ta supériorité sur eux parce que tu as pardonné, parce que tu as fait du bien. C'est cela, bien-aimé. Voilà la technique des élus, la technique des justes, faire le bien lorsqu'on leur fait le mal. C'est ça le mystère du royaume des cieux. une autre raison pour laquelle Dieu permet que le mal s'abatte sur nous, que le mal semble prendre le dessus, c'est que la délivrance est toujours plus belle que la bénédiction directe. Aujourd'hui, beaucoup respirent, hein? Beaucoup marchent, mais ils se plaignent de beaucoup, beaucoup d'autres choses. Ils ne sont pas heureux. Mais que l'un d'entre eux soit paralysé lors d'un accident et qu'il fasse 6 mois sans marcher, 6 mois sans se lever, je vous dis, le jour où il se lèvera, il sera dans une joie qui dépasse de loin un millionnaire, quoi, la joie d'un millionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il comprend le goût de marcher. C'est quoi marcher ? Et il voit comment c'est agréable. Parce qu'il a fait 6 mois sans marcher. C'est cela, bien-aimé. Dieu peut laisser le mal s'abattre sur nous, mais nous devons toujours répondre par le bien, même si ça traîne, parce que la délivrance sera très, très belle. La délivrance sera extraordinaire et nous serons dans une grande joie. C'est ce que Dieu fait aussi. Il permet que le mal nous atteigne. Et c'est écrit dans le psaume 34, au chapitre 20. Le malheur atteint souvent le juste. Nous lisons le psaume 34. La Bible dit, au verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » La Bible dit, « Le malheur atteint souvent les justes. » Souvent. Alors, si on commet l'erreur de répondre au mal par le mal, on est fini. Donc, on change de nature. Donc, on fera régulièrement cela, puisque le malheur nous atteint souvent. Si on est juste, le malheur t'atteindra souvent. Alors, si tu commences à répondre par le mal, tu vas finir où ? Tu vas finir par devenir méchant. Tu vas finir par devenir mauvais. Alors, mais la Bible dit, le malheur nous atteint souvent, mais l'Éternel nous en délivre toujours. Toujours. Afin que la délivrance donne un meilleur goût à la bénédiction qui est donnée. Afin que cette délivrance nous forme. Vous savez, quand vous êtes délivré, vous savez que vous avez eu un sauveur. Mais lorsque vous vivez normalement, vous respirez, vous marchez, pour vous, il n'y a pas de sauveur. Mais le jour où vous allez à l'hôpital, on vous dit que vous avez un kyste, un problème sérieux, et que si le médecin n'est pas suffisamment de taille, suffisamment bon, l'opération peut conduire à la mort. Mais quand on vous réveille et qu'on vous dit l'opération a réussi et que vous pouvez marcher maintenant, votre cerveau est rétabli, le médecin devient votre sauveur. Mais quand vous marchez normalement, il n'était pas votre sauveur. Alors Dieu permet que le malheur nous atteigne, qu'il nous sauve, qu'on reconnaisse qu'il est sauveur. Parce que si on ne reconnaît pas ça, c'est nous qui mourrons. Parce que c'est chaque jour lui qui nous donne la respiration. C'est lui qui donne le souffle de vie. C'est lui qui permet, qui gère les circonstances de nos vies. La Bible dit dans Daniel 2, 21, c'est le maître des temps et des circonstances. Mais nous ne sommes pas humbles pour reconnaître cela. Alors il permet que le malheur nous atteigne. Et quand le malheur nous atteint et qu'il nous sauve, on dit « Ah, c'est Dieu qui m'a sauvé ». C'est ça l'objectif. Et la délivrance est formatrice. Alors que la bénédiction comme ça, simplement, sans délivrance, on peut même ne pas s'en rendre compte. Et manquer de reconnaissance, c'est notre mort qui vient à petit feu. Petit à petit, nous devenons orgueilleux. Comme Saül, il gagnait les guerres. Il était costaud. La Bible dit qu'il était plus grand que tous les enfants d'Israël. Il était très costaud, très fort. Il gagnait les guerres, il était roi, il avait tout. Et donc Dieu ne lui disait plus rien. Quand Dieu donnait un ordre, il ne suivait plus. Il ne se sentait plus obligé de suivre parce qu'il n'avait pas l'humilité vis-à-vis de Dieu. Le manque d'humilité a produit la rébellion et la rébellion a produit la mort. Alors Dieu, pour nous éviter ça, il permet que le malheur nous atteigne souvent Et il prévoit la délivrance en même temps. Et à chaque fois que nous sommes délivrés, nous louons son nom, nous entrons dans l'humilité, nous vivons dans l'humilité et nous demeurons dans sa présence, dans sa communion, dans ses faveurs. C'est ce qu'il veut pour nous. Nous devons comprendre cela. Et donc tomber dans l'erreur de répondre au mal par le mal, c'est grave. C'est sortir de la nature de Dieu. C'est refuser la délivrance de Dieu, c'est refuser d'honorer Dieu en tant que sauveur, c'est vouloir se débrouiller tout seul. Et quand on fait ça, l'orgueil nous atteint et on finira par s'éloigner de Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Les actes des méchants, bien-aimés, une autre raison, c'est comme la faim. Quand tu as faim, tu es poussé à aller prendre la nourriture. Mais quand tu n'as pas faim, la nourriture peut t'entourer sur quatre colonnes. Tu peux te retrouver au centre d'une grosse table de restaurant remplie de victuailles. Tant que tu n'as pas faim, ça sera comme si tu regardais des jouets en plastique. Tu ne peux pas les manger parce que tu n'as pas faim. Alors lorsque Dieu n'est pas attiré par les difficultés, il n'agit pas. Puisque tout est bien, il regarde. Mais dès qu'il y a une difficulté qui survient, dès qu'il y a une détresse, ça attire Dieu comme la faim attire la nourriture. Dieu est attiré par la détresse. Il est attiré par la difficulté afin de glorifier son nom. C'est pourquoi la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Parce que ce comportement-là, il l'a qu'avec les justes. Parce que c'est avec eux qu'il veut tisser des relations puissantes, des relations de communion intense pour que sa puissance se manifeste. Le malheur atteint souvent le juste afin d'attirer la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu qui fait la différence. Ce n'est pas la puissance de l'homme. Alors lorsque ces malheurs viennent, nous on se permet de répondre au mal par le mal. On s'égare, on s'éloigne, on empêche la puissance de Dieu d'agir. Si nous voulons voir la puissance de Dieu agir, répondons au mal par le bien. Nous allons voir la grande puissance de Dieu se manifester. Nous ne sommes pas, bien-aimés, le premier à avoir vécu ça. Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il a attiré la puissance de la résurrection. Et après la résurrection, qui pouvait encore le tuer? Qui pouvait même le tenir sur la main? Personne. La mort va entraîner la puissance de la résurrection. Laissons les gens nous tuer afin que la puissance de la résurrection se manifeste. Et quand la puissance de la résurrection se manifeste, il n'y a plus de mort. Mais si nous voulons nous battre pour ne pas mourir, eh bien, on va se fatiguer. Il n'y aura pas de puissance de résurrection. Il y aura blocage. Mais laissons à Dieu. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Attirez ma puissance en vous laissant faire. C'est très important. Il faut se laisser faire. Ça fait partie du cheminement du chrétien. La Bible dit dans Matthieu 5, ne résistez pas aux méchants. C'est ce qui est écrit. Quelqu'un veut prendre ta robe, tu lui donnes la deuxième robe. Quelqu'un veut te faire marcher 1 kilomètre, mais tu marches 2 kilomètres. C'est ce qui est écrit. Bien-aimé, ce sont les mystères du royaume. Si tu appliques ça, tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup jeûnent 40 jours pour avoir la puissance. Il y a d'autres qui jeûnent 3 jours dès qu'ils ont un problème. Mais comme leur nature ne change pas, en 3 jours ils s'humilient, Dieu agit un tout petit peu. Mais comme leur nature n'a pas changé, les problèmes reviennent. Il n'y a pas de résurrection. Parce que quand il y a la résurrection, il y a définitivement la mort qui a enterré, qui a fui. Mais pourquoi beaucoup voient leurs problèmes revenir tout le temps? Les mêmes, je dis le même problème. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Ce n'est pas le même malheur. C'est des malheurs qui changent. Mais pourquoi certains sont atteints que par le même malheur? Parce qu'ils ne sont pas encore morts à cette situation-là. Ils se battent par eux-mêmes. En se battant par eux-mêmes, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Mais le jour où ils meurent, où ils laissent Dieu intervenir, il y a une résurrection parfaite par rapport à cette situation. Cette situation ne revient plus. Ça sera un autre malheur encore. Bien-aimés, c'est ça que Dieu nous propose. De mourir, de se laisser faire, de ne pas résister aux méchants. Si nous estimons que le comportement de quelqu'un est négatif, et que c'est un comportement de méchant, ne résistons pas. Laissons-le manifester son comportement de méchant. Laissez-le avoir le dessus sur nous. Tout en restant pur, tout en restant bon, et nous verrons la puissance de Dieu agir. C'est ce que Dieu attend de nous. Ne résistez pas aux méchants. Jacob n'a pas résisté. Vous avez vu ce qui s'est passé. Finalement, tout le temps qu'on l'a utilisé, en réalité, finalement, est-ce qu'il a perdu? Ben non, parce que tous ces animaux-là lui sont revenus, finalement. Donc, tout le temps où on l'a escroqué, ben, il n'avait pas perdu. C'était à lui, finalement. Les gens vont vous escroquer au travail, à gauche, à droite. Mais un jour, vous allez vous rendre compte, tiens, finalement, c'est là-bas que j'ai appris le métier. C'est là-bas que j'ai été béni. Mais quand vous êtes escroqué, quand vous êtes utilisé, vous ne vous en rendez pas compte du fait que ces gens-là, c'est eux qui perdent. Le jour où Dieu vous ouvre les yeux, vous dites, mais finalement, j'ai gagné. L'Éternel a été ma justice. C'est comme ce fut le cas de Jacob. Finalement, il n'a pas regretté ses 14 ans. Plus de 14 ans encore à travailler pour Laban, son beau-père. Parce que finalement, tous les animaux, tous les bétails lui est revenu. Bien-aimés, ne nous laissons pas battre. Le Seigneur s'occupe de tout. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Jésus à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Seigneur l'a ressuscité. Il l'a ressuscité. Va encore le tuer. Va encore le toucher. Il est ressuscité. La mort est vaincue. Bien-aimé, nous allons lire le cas d'un autre type de Christ, un autre héros de la foi qui nous a montré l'exemple aussi. Malmené par ses propres frères, vendu par ses propres frères, mais n'a pas rendu le mal par le mal. Il a tenu bon, il est resté bon dans son cœur. Et nous allons voir la fin. Genèse 45. Genèse 45 va nous apprendre encore autre chose sur le fait d'être vainqueur du mal par le bien, de laisser les méchants faire et de ne pas résister. La Bible dit ceci. À partir du verset 1er. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père, vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi !» Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi ministre de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. » Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Toi, tes fils et les fils de tes fils, les brebis, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi tu ne périras point, toi et ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Amen. Alors vous vous imaginez si Joseph était dans la logique de vengeance. Est-ce qu'on aurait lu une telle belle scène de joie? Pas du tout. Il aurait dit, voilà, vous m'avez vendu, maintenant je vais régler votre compte. Non, Joseph a compris que Dieu a utilisé ces gens-là pour le faire avancer. Un autre principe, bien-aimé, Dieu va utiliser les forces des ténèbres pour nous faire avancer. Il va utiliser les forces des ténèbres pour nous faire avancer, bien-aimé. Afin qu'ils soient doublement honteuses. Non, il ne faut pas se plaindre quand on est persécuté, attaqué. Dieu est en train d'utiliser ces gens-là pour nous faire avancer dans le plan qu'il a pour nous. Joseph a réalisé ça, que si on ne l'avait pas vendu, il ne serait pas ministre en Égypte. Il ne serait pas premier ministre. Donc le vendre a été une bonne action pour lui. C'était une action de méchanceté, mais une bonne action pour lui, Joseph. Il s'est rendu compte. Et nous, on veut être premier ministre pour comprendre ça. Mais non, comprends ça seulement en lisant la Bible. Que c'est la même chose pour toi. Que ce qu'on te fait de mal, c'est pour te faire avancer dans l'œuvre de Dieu. C'est pour te faire avancer dans la communion avec Dieu. C'est pour te faire avancer dans le plan que Dieu a pour toi. Si tu le crois, tu verras cela. Mais si tu continues à murmurer, à te plaindre, à gémir, à parler mal sur tous ceux qui te font du mal, tu es en train de retarder le plan de Dieu. Dieu veut que tu fasses comme Joseph, que tu comprennes que ce n'est pas ton affaire, tous ceux qui te font du mal. Ton affaire, c'est les bénir. Ton affaire, c'est prier pour eux. Il faut arrêter de murmurer contre ceux qui nous font du mal. Ce n'est pas la race des justes, c'est la race des touristes et des méchants, bien-aimés. Une fois pour toutes, soyons de la race d'Étienne. Lorsqu'il est lapidé, il dit, Père, ne leur retiens pas ce péché. Soyons de la race des justes. Si on n'a pas eu la force de prier, mais rigolons au moins, quoi. Peut-être on rigole, on apprend qu'on nous a injuriés, qu'on nous a critiqués injustement, mais que ça nous fasse au moins rigoler. Parce qu'on est près de notre joie. On s'approche du plan de Dieu. À travers ses méchancetés, à travers ses attaques, à travers ses persécutions. Elle peut être de toutes sortes. Je vous ai donné le cas de ma location. Voilà. Une persécution. Mais il faut le prendre avec joie. On dit, Seigneur, moi j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je te laisse ta part. Seigneur, mon dossier, l'avocat l'a pris. Moi je ne m'en occupe plus. Moi je m'occupe de prier. C'est tout, et de bénir mes adversaires. Voilà ce qu'on doit faire. Et nous verrons les choses changer. Lorsque nous murmurons contre ceux qui nous font du mal, nous retardons le plan de Dieu. Et pour nous, et pour eux aussi. Parce qu'on voit aujourd'hui, on voit dans cette scène, comment les frères de Joseph sont bénis. Ils entrent eux aussi dans le plan de Dieu parce que Joseph y est entré. Parfois, les gens qui nous persécutent, Dieu nous les a liés à eux, pour que nous tous ensemble, on entre dans le plan de Dieu. Mais il les utilise pour nous faire avancer, afin que nous, entrant dans le plan de Dieu, nous les entraînions aussi dans le plan de Dieu. Bien-aimés, est-ce que vous pensez vraiment que Dieu, là qui est au ciel, il va s'amuser à suivre nos petites colères, nos murmures? Mais pas du tout, parce que Dieu n'est pas notre cousin, hein? S'il nous a sauvés alors qu'on était mauvais, moi je me souviens quand on était à l'école, les gens qui priaient, on leur donnait toutes sortes de surnoms, de colibés. Mais Dieu ne m'a pas tué à l'époque. Il me sauve. Vous croyez que si maintenant il y a des gens qui me donnent des surnoms, Dieu va les frapper? Oui. Mais pas du tout, Dieu veut les sauver. Ne nous trompons pas de Dieu. Hein. Dieu veut sauver. Il jugera à la fin des temps. Hein. Là, il veut sauver. Tant que quelqu'un est vivant, Dieu veut le sauver. Ce n'est pas notre colère qui fera avancer les choses. Hein. Même si cette personne-là nous casse la jambe, ne pensons pas que Dieu va l'amener directement en enfer. Dieu va utiliser cet événement à travers notre bonté pour sauver cette personne. Votre jambe, c'est quoi? Dieu dit, vaut mieux entrer estropié au ciel qu'entrer avec les deux jambes en enfer. Donc pour Dieu, votre jambe, c'est rien parce que ça va être reconstitué rapidement au ciel. Instantanément, dès que vous allez rentrer au ciel, la béquille même ne passera pas à la porte. Ça, c'est restauré. Alors, comment Dieu, lui, peut bloquer le salut d'une âme à cause de ta jambe ou à cause de ta voiture ou à cause de ta maison? Jamais. Ne nous trompons pas de Dieu. Dieu aime les gens qui nous font du mal. Croire que puisqu'on nous fait du mal, Dieu ne les aime pas, c'est se tromper de Dieu. C'est étonnant, mais toi aussi, tu étais dans ces cas-là. Tu faisais du mal à des chrétiens, Dieu t'a aimé, t'a sauvé. Donc, il fait pareil pour ceux qui nous font du mal. Donc, croire que, ben tiens, moi je suis pasteur, on m'a touché là, bon, ils ont touché à loin de l'Éternel, Dieu va frapper, tu te trompes. Dieu ne frappera personne, il sauvera. Amen. Il frappera au dernier jour. Les gens récolteront ce qu'ils ont sémé. Dieu ne cherche pas à juger. Ce qu'ils sèment, ils vont récolter. Ils font du mal, ils récolteront le mal peut-être. Ça, ce sont des principes spirituels. Mais ça n'a rien à voir avec la nature de Dieu de vouloir taper les gens. Non, Dieu jugera une fois pour toutes par rapport à l'éternité. Mais pour le moment sur terre, il veut sauver. Et il veut utiliser l'injustice que nous subissons. Il veut utiliser la persécution que nous subissons pour sauver ceux qui nous persécutent. Il attend de nous que nous ayons un cœur d'accepter cela avec amour afin que nous soyons un canal qui va sauver ces gens-là. Si Jésus n'avait pas dit « Père, pardonne-leur », comment il aurait pu-il être un canal pour notre salut? C'est cela, bien-aimé. Je sais que c'est contre nature, mais c'est la réalité biblique. Je sais que c'est contre la nature humaine ce que je suis en train de dire. D'aimer les mauvais, d'aimer ceux qui nous font du mal, de comprendre, de saisir que c'est nous que Dieu veut utiliser pour leur salut, à travers nos prières, à travers le fait qu'on supporte ce qu'ils font. C'est ça qui permet à Dieu de travailler pour les sauver. Je sais que c'est contre la nature humaine, mais c'est la vérité. Si nous avons choisi la vérité, allons jusqu'au bout. Il faut supporter les méchants, il faut les aimer, il faut les bénir, parce que c'est la nature de notre Père. Ne changeons pas de race, bien-aimés. Restons dans la race de Dieu. C'est important. Nous lisons au chapitre 50. Verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, nous l'avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et y dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Joseph dit, mais pourquoi vous avez peur que je me venge? Pourquoi? Parce que ses frères avaient du mal à croire qu'un humain puisse se comporter comme Joseph. On t'a vendu. On n'a pas fait que le vendre. Déjà petit, on ne faisait que le maltraiter. Puisque c'était l'enfant chéri de son père. On l'accusait, on le tapait. Et ça a fini. Ils ont voulu le tuer. Ça a loupé. Ensuite, ils l'ont vendu. Bien-aimé, ne serait-ce que pour les pleurs de son père, Joseph devait les tuer. Parce que Jacob a trop pleuré son fils. Dans cette colère-là, Joseph devait tuer ses frères en pensant à la souffrance de son père. Mais Joseph a bien compris que Dieu a transformé le mal en bien. Pourquoi se plaindre encore? Pourquoi? Puisque la fin est heureuse. Pourquoi se plaindre? Bien-aimé, je t'informe que la fin sera heureuse. Le mal que tu subis, la fin sera heureuse. Pourquoi nous réagissons par le mal? Parce que nous avons oublié, nous avons négligé le fait que la fin finira toujours par être heureuse. Vous savez, autrefois quand on était petit, donc le film finissait toujours, on attrape le voleur et l'acteur principal a gagné. Mais avec Dieu, c'est toujours comme ça. Mais avec Alain Delon, ça a changé un peu. Mais avec Dieu, il gagne toujours à la fin. La fin sera heureuse, bien-aimé. On ne tuera jamais le policier, il va gagner à la fin. Alors, si tu crois que la fin sera heureuse, pourquoi faire le mal? Laisse le Dieu de la fin heureuse continuer son œuvre. Laisse l'œuvre continuer son œuvre. Ne réponds pas au mal par le mal. Sois vainqueur du mal par le bien, parce que la fin sera heureuse. Et pour toi, et peut-être pour ceux qui te font du mal, s'ils saisissent les sacrifices que Dieu endure en les laissant te faire souffrir. Saül n'a pas saisi. Qu'est-ce qui a été sa fin? Lui et presque toute sa famille. Ils sont morts. Mais les frères de Joseph ont saisi. Bien-aimés, ils pouvaient toujours continuer à vouloir faire des coups bas. Mais quand ils ont compris qu'ils avaient fait une bêtise, Dieu a transformé le mal en bien. Ils se sont calmés, ils ont dit, Dieu nous a montré la réalité. Joseph fait son choix. On n'a pas à résister devant ça. Ils se sont prosternés devant Joseph. Ils ont dit, on ne va pas continuer. Dieu nous a déjà fait la leçon. On ne va pas attendre encore qu'il nous fasse la leçon une deuxième fois. On s'arrête là. Mais Saül, alors que Dieu lui a fait la leçon, David pouvait le tuer. David ne le tue pas. Il devait comprendre par là. Lui-même, d'ailleurs, il a compris puisqu'il a dit. Il a dit, David, tu es juste. Tu es bon. Et tu régneras. Il a compris. Mais il n'a pas voulu agir en fonction de ce qu'il a compris. Il a voulu encore prouver que lui, c'était Saül. Il a voulu encore tuer David une deuxième fois. Une deuxième fois encore, David pouvait le tuer. David ne le tue pas. Il dit, mais Saül, la deuxième fois, je peux te tuer encore, je ne l'ai pas fait. Saül dit, non, mon enfant, que Dieu te bénisse. Il a encore compris une deuxième fois. Mais il a continué toujours à poursuivre David. C'est normal qu'il finisse tel qu'il est. Il a fini. Bien-aimé, Dieu, à travers nous, parlera aux gens qui font le mal. À travers nous, il avertira. Mais nous serons en ce moment-là comme en une position de défaite. Mais il y aura des étincelles de victoire que Dieu va utiliser pour leur dire, voilà cette étincelle. Je peux faire que ça dure, hein, mais ça ne dure pas. C'est juste pour te montrer que cet homme-là que tu attaques, la personne que tu persécutes, ce n'est pas n'importe qui. Ne continue pas. Arrête. Mais c'est là que la personne doit se réveiller pour dire, tiens, il y a Dieu derrière cette personne. Mais si la personne continue, parce qu'après cette étincelle-là, Dieu se disparaît encore. Parce que quand David a voulu tuer Saül, après, la situation est redevenue normale. Saül était avec toute son armée contre David avec un petit groupe. Donc Saül s'est dit, mais je vais encore le tuer. C'est ainsi. Donc quand Dieu fait une étincelle, on se dit, tiens, c'est vrai que Dieu est là dans cette affaire. Mais après, Dieu disparaît pour voir si on a compris, pour s'humilier. On ne s'humilie pas. Bien-aimé, après ça finit mal. Mais est-ce que ça, c'est notre problème? Ce n'est pas notre problème. D'ailleurs, le jour où Saül est mort, il y a quelqu'un qui est venu dire à David, avec joie, Saül est mort. David a pris l'épée, il l'a fait tuer. Parce que ce n'est pas notre race de se complaire de la souffrance des autres, des malheurs des autres. Ce n'est pas notre race. Nous devons chercher seulement que les autres soient bien. Quand ils sont mal, même si c'est parce qu'ils nous attaquaient, On doit dire, ah, vraiment, ils n'ont pas compris le Seigneur. On doit se lamenter pour eux. Mais on ne doit pas dire, ah, ils l'auraient cherché. Non. On doit se lamenter. Parce que Dieu a voulu nous utiliser pour les sauver. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas saisi. Bien-aimés, c'est ça le cœur des enfants de Dieu. Nous sommes d'une autre race, la race de Jésus, qui ne cherche pas à se venger, mais qui cherche à sauver. Bien-aimés, je reconnais qu'il y a méchanceté, méchanceté. Mais quand on est face à des grosses méchancetés, ben, sachons qu'on a un amour qui submerge toute forme de méchanceté. Cet amour-là, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu, qui est parti jusqu'à la croix. Pensons en lui. Quand on est en face de grosses méchancetés, comme je l'ai dit, il y a méchanceté, méchanceté. Il y a des gens, quand ils arrivent, ils n'ont rien dit, rien que la tête énerve. Donc, parce qu'ils sont méchants. Mais Jésus a la plus grande dose d'amour pour submerger la plus grande dose de méchanceté. Pensons en lui et retrouvons la paix dans notre cœur. Pardonnons à ces gens, même s'ils semblent prendre le dessus sur nous. À la croix, les mauvais semblaient prendre le dessus sur Jésus. Mais Jésus savait que c'est faux. C'était pour un temps. C'était l'heure des ténèbres. Mais l'heure de la lumière venait, arrivait le troisième jour. Et Jésus a laissé les gens travailler dans les ténèbres. Vous savez, quand on est venu arrêter Jésus, Jésus a dit, c'est l'heure des ténèbres. C'est votre moment. Bien-aimés, dans nos vies, il y a des temps où Dieu nous livrera au mauvais. Il y a des temps où ça sera leur heure de se réjouir, de dire, mais tiens, il est en perte de vitesse. Tiens, voilà telle erreur. Tiens, c'est leur heure de critiquer. C'est leur heure de parler. C'est leur heure de sauter. Dieu a prévu ça. Il faut leur laisser leur heure parce que c'est Dieu qui leur donne. Jésus n'a pas résisté. Il avait compris que c'était l'heure des ténèbres. Il leur a dit, c'est votre heure. Il a dit, arrêtez-moi. Il pouvait dire, on ne m'arrête pas. Mais il avait discerné, ça c'est l'heure des ténèbres. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent sur moi. Il faut discerner ça. À un moment donné, vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré jusqu'à la terre promise? Parce qu'il s'occupait de tout. On critique à gauche, ah, il s'occupe. Il voulait se justifier, défendre. Finalement, ça l'a rendu, ça l'a dépassé. Il y a des moments où il faut accepter des apparentes défaites jusqu'à ce que la justice de Dieu elle-même se manifeste. Il faut discerner ces moments-là, dire c'est l'heure des ténèbres. Qu'on me tape dessus, qu'on marche jusqu'à ce que la justice de Dieu se manifestera elle-même. En conclusion, bien-aimés, laissons la méchanceté aux méchants. Comme David a dit, soyons de la race de Dieu. À Dieu seul la vengeance, à nous l'amour, la prière, la bénédiction pour les autres. Car Dieu est capable de transformer le mal en bien. Dieu a toujours le dernier mot. La délivrance est plus belle qu'une vie normale de bénédiction. Les persécutions et les souffrances attirent la puissance de Dieu et sa grâce sur nos vies. À cause de tout cela, laissons le mal au mauvais et nous soyons vainqueurs du mal par le bien. Ainsi, la race de Dieu sera clairement manifeste dans ce monde difficile. Vous savez, l'apôtre Paul dit, les gens n'ont pas mérité des gens comme David. Le monde n'a pas mérité des gens comme David, comme Joseph. Mais Dieu les a envoyés pour être des témoins que lui, Dieu, il est comme ça. Et il a envoyé son fils Jésus afin qu'on voit comment lui, il est. Il est bon envers les méchants. Il ne veut pas que les méchants meurent, mais il veut qu'ils se repentent et qu'ils soient sauvés. Nous soyons comme lui. Ne cherchons pas la mort des méchants. Ne cherchons pas qu'ils soient frappés. Cherchons à ce qu'ils soient sauvés. Car le mal que nous subissons, Dieu le transformera en bien pour sa gloire. Et ce jour-là, en ce moment-là, notre joie sera parfaite. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne la nature que tu as choisi pour nous, Seigneur. La nature que tu veux pour nous, Seigneur. Répondre au mal par le bien. bénir ceux qui résistent à toi. Ô Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, faire de la religion et chercher à prier comme si c'était un club ou un style de vie humain, Seigneur. Nous voulons réellement que tout notre être soit transformé, Seigneur. Tout notre être soit transformé afin de manifester ta nature. Je sais que cela est contre la nature humaine. Mais la Bible le dit, l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Nous voulons manifester, Seigneur, la nature de l'esprit de vie, l'esprit de Dieu.